Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous comme tous les jours sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. C'est Estelle Midi, midi 15h. Martin Bourdin, journaliste RMC à faim, mais il est toujours avec nous. Perico Legas, journaliste à Marianne à très faim, mais
j'ai
il
même
est resté.
J'ai même l'écro, moi, je veux dire.
Loumir Lapré, militant écologiste, est là. Laurent Dandrieux, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles. Dans un instant, la baisse de la consommation de viande en France. Faut-il apprendre à s'en passer? On vous pose la question. Vous nous appelez au 32-16. À 14h30, les pros de la réno. Comment savoir s'il faut rénover son logement de manière énergétique, la rénovation énergétique? Eh ben, on vous répondra, vous verrez ça tout à l'heure avec Charlotte Méritant. Et puis à 14h40, les immanquables de Martin Bourdin. On parlera de quoi, notamment, Martin?
On va parler de la sortie d'un film très attendu, tiens, notamment aujourd'hui, sorti un vendredi, c'est pas courant, mais c'est parce que c'est un film très particulier.
RMC Estelle Midi.
Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet? Une chèvre en rôti? Quelques signes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
Ça marche toujours. Évidemment, les visiteurs, un extrait. Le plat du jour, un plat sans viande. Bah, c'est ce qui s'invite de plus en plus souvent à la table des Français, apparemment, Martin. Inexorablement, la consommation de viande continue de baisser dans notre pays.
83,5 kg, voilà ce que mange en moyenne un Français chaque année. 83,5 kg de viande par an. C'est 1,4% de moins en un an, alors que depuis deux ans, les deux années précédentes, cette consommation de viande était globalement en hausse. Si on regarde sur le plus long terme, en 20 ans, notre consommation de viande a baissé de 6% en France. S'il y en a une qui se fait de plus en plus rare dans nos assiettes, c'est la viande bovine. On en consomme 19% de moins qu'il y a 20 ans. Ça fait quand même 5 kilos par an et par personne, c'est pas anodin. Jamais on n'avait consommé aussi peu de bœuf depuis 20 ans. C'est pareil pour le porc finalement. Seul le poulet s'en sort et gagne même du terrain dans nos assiettes. 28% de la viande consommée aujourd'hui en France, c'est du poulet, c'est deux fois plus qu'en 2003. Et ce qui pousse la France, ça va pas plaire à Perico, à importer de plus en plus de volailles. Un poulet sur deux consommé en France l'année dernière était importé, en premier lieu de Pologne et de Belgique.
Perico, ça fume, je ne te laisse pas mijoter plus longtemps. On vous pose la question hein, dans un instant, on sera avec vous au 32-16. Baisse de la consommation de viande en France, faut-il apprendre à s'en passer? 32-16, donc vous nous appelez. Perico.
Rémi, mon petit, je ne voudrais pas paraître vieux jeu et un grossier, l'homme
jamais j'ai pensé ça de toi,
rude, mais ma vérité oblige à te dire que ta question commence à me les briser menu.
Oui.
Pour la première fois, je conteste la formulation de la question des
midi
parce que vous faites une déduction quand vous l'avez conçue. Je te sens responsable de cette question.
Oui.
C'est pas parce qu'il y a une baisse de la consommation.
Tu connais mon petit côté provocateur.
Bah, je sais bien, et puis t'es bien tombé là, je veux dire, t'as appuyé sur mon numéro.
Et ça marche, apparemment ça marche.
Ce n'est pas, laissez-moi finir, monsieur Barré.
Allez-y.
M'interrompez
pas. Allez-y, monsieur Legas.
Ce n'est pas parce que vous constatez une baisse de la consommation que la conclusion doit être est-ce qu'il faut s'apprendre à l'arrêter. Ce n'est pas parce que ça baisse que c'est forcément mauvais. À ce moment-là, je t'applique ce
certains
théorème-là.
Disent,
hein.
Certains le disent,
ben on arrête
certains
de
le
vivre.
Souhaitent.
Alors, il y a les véganes qui ne veulent pas qu'on consomme de viande et qui sont très contents de la statistique. Et en fait, ils vont être très déçus. Puis tu penses bien que je suis ce dossier de très près, que je vais voir les artisans.
Comme le lait sur,
que
sur le
voir,
feu.
Que je vais voir les sociologues, les statisticiens. La consommation de mauvaise viande baisse. Autrement dit, le message que nous véhiculons dans cette émission, du moins mais mieux, est en train de porter ses fruits. Mmh. Et les bouchers.
Ouais, t'as raison, le poulet qui vient du Brésil, ça marche.
Alors, attention, la restauration collective, ce n'est pas le choix. Ouais. Les restaurations collectives, on est à 90% de poulet importé.
Moi, je vois qu'on mange de plus en plus de poulet, qu'un poulet sur deux vient de l'étranger.
90%.
Enfin, c'est bon mauvais,
90% des poulets servis en restauration collective, c'est-à-dire écoles, hôpitaux, il y en a, ça vient de l'étranger parce qu'ils vont au prix le plus bas, ce qui est une honte. Il n'y a pas de protection européenne et ça ruine nos filières douanières. Je parle de la viande rouge, celle qui pose problème, celle que Sandrine Rousseau a évoquée.
Attends un peu avant de réagir, Martin, parce qu'il va s'énerver.
Voilà, celle que Sandrine Rousseau dénonce parce que c'est l'homme et celle que Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, défend. Cette viande rouge-là, elle se porte bien. Je suis allé voir les organismes syndicaux de la boucherie française, les artisans bouchers de quartier qui vendent de la bonne viande élevée à l'herbe française. Cher, ils progressent en chiffre d'affaires. Et souvent, ils ouvrent... Par contre, la viande intermédiaire, vendue en grande surface, qui arrive souvent de Pologne, des pays de l'Est, élevée dans des conditions abominables, nourrie avec de la merde et abattue de façon catastrophique, ça allait être en train de baisser. Donc je me réjouis de l'information.
La baisse de la consommation de viande, tu t'en réjouis.
C'est une grande nouvelle. Parce que c'est de la baisse de la mauvaise viande et c'est l'augmentation de la bonne viande. Et j'encourage les Français, les consommateurs françaises et français à aller dans ce sens. C'est une très grande nouvelle pour la viande française.
Toujours, voilà. Toujours.
Mais je suis là pour ça.
Et c'est un des talents.
Juste une précision, Perico, quand on disait faut-il s'en passer, c'est pas que nous qui demandons éventuellement s'il faut s'en passer. Il y a le réseau Action Climat qui avait mené une étude, notamment pour dire que si chaque Français consommait 450 grammes de viande maximum par semaine, contre 900 grammes actuellement, ça permettrait de réduire de 50% le gaz à effet de serre horizon 2050.
Je précise que sans élevage, nous n'avons plus de fumure naturelle pour la terre. Ça serait remplacé par des fumures agrochimiques qui sont des poisons polluants, et donc nous avons besoin d'élevage d'animaux pour faire du fumier, et quand on a des animaux en élevage, eh bien, il faut bien utiliser leur lait et leur viande, à condition qu'ils soient bien élevés, bien nourris, et tués et abattus de façon respectable.
La consommation de viande baisse en France, faut-il apprendre à s'en passer? Vous nous appelez au 3216. Loumire, est-ce qu'il faut apprendre à s'en passer de la viande?
Oui. Alors s'en passer, c'est pareil. Il s'agit d'être raisonnable. Moi, je mange de la viande. J'ai pas, je ne dis pas qu'il faut absolument plus jamais mettre un morceau de beefsteak dans son assiette. C'est pas ça que je dis. Déjà, il y a viande et viande en termes de. Moi, je me place du point de vue de la pollution. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut apprendre à s'en passer? Il faut redire, c'est pas juste parce qu'on a envie de priver les gens de leur barbecue, c'est pas le sujet. Déjà, au niveau mondial, on n'a jamais autant consommé de viande. C'est important de le dire. Il y a 2000 animaux qui sont tués chaque seconde, quand même. Et pourquoi c'est un problème? Eh ben parce que pour ces élevages, ils nécessitent beaucoup d'eau et de terres agricoles. Donc par exemple, 40% des terres agricoles mondiales, elles sont utilisées pour faire pousser des céréales qui nourrissent après notamment du maïs et du soja, qui est largement responsable de la déforestation, etc. Donc en fait, le sujet, c'est pas plus jamais manger de la viande, c'est faire grandir, élever autant de viande, ça nous pose un problème collectif parce que ça utilise trop d'eau, ça utilise trop de terres agricoles sur lesquelles on pourrait faire pousser des choses qu'on pourrait manger directement.
Est-ce que le plat accompagné de viande, ça doit devenir exceptionnel?
Bah, je pense que déjà pour la santé, par ailleurs, parce que c'est encore un autre sujet, on mange trop de viande aujourd'hui. Les gens qui notamment critiquent Sandrine Rousseau, etc. Alors, je suis pas toujours la plus grande fan, hein, mais qui sont souvent les mêmes qui disent c'était mieux avant, le temps des grands-parents. Mais moi, mes grands-parents, ils mangeaient pas de la viande à tous les repas, du tout. Ça coûtait trop cher, il y en avait pas assez. Et donc le sujet, c'est juste de dire comment est-ce qu'on peut revenir à une consommation plus raisonnable. Par exemple, est-ce qu'on peut n'en cuisiner que le week-end ou n'en manger que quand on va au restaurant, si on a la chance d'aller au restaurant. Moi, ce qui m'interroge, et c'est peut-être que vous avez la réponse, c'est quelle est la raison de cette baisse de consommation? Est-ce que c'est parce que les gens
sincèrement, j'ai même petite idée, je ne sais pas si c'est le... Sincèrement, j'ai ma petite idée, c'est quand même
le pouvoir d'achat ou pas?
C'est ce qu'on nous dit beaucoup sur Direct Studio.
Effectivement, il y a Jérôme. Problème, en fait.
Jérôme sur Direct Studio qui nous dit on a diminué la viande rouge à cause de son prix. On mange plus d'escalopes de cuisses de poulet et de pilons de poulet que de viande hachée, de beefsteak. C'est pas un choix, c'est une obligation.
Exactement. Donc pour moi, c'est ça.
Mais aussi les campagnes d'El 214 qui ont fait prendre conscience qu'ils mangent des viandes.
C'est un contexte, mais enfin,
c'est pas nul quand même.
Non, mais j'ai pas dit qu'il y a plusieurs raisons. Non, mais il y a plusieurs raisons, mais on va pas se voiler la face. La raison numéro un, c'est quand même.
Et pour moi, ça, c'est triste, parce que ça veut dire, du coup, qu'on est dans une baisse de la consommation qui est contrainte, et que le jour où, je l'espère, on aura un gouvernement qui va nous permettre de vivre mieux, elle va repartir à la hausse.
Oui, mais
et
Lumière,
donc, c'est ça.
La viande pas chère est forcément mauvaise.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça,
100%. Laurent Dondrieu est en train de bouillir.
Non, parce que moi,
c'est mijote.
Non, non, alors là, il boue. Je peux te dire que ça boue. Là, ça déborde même.
Moi, je suis sur une.
C'est Dondrieu mis en toi.
Non, j'allais dire, effectivement, on mange trop de viande, ça dépend qui, effectivement. Dans les classes aisées, c'est probablement chez les classes populaires, de moins en moins. S'il y a aussi une hausse de la consommation au niveau mondial, c'est aussi parce qu'il y a des catégories de population qui n'avaient pas accès à la viande autrefois et qui ont accès aussi. Et ça, on ne peut pas leur jeter la pierre.
Est-ce qu'on apprend à s'en passer?
Alors, moi, personnellement, je n'ai pas l'intention de m'en passer du tout parce que ça fait partie de notre art de vivre, ça fait partie de notre identité culinaire, ça fait partie aussi de l'élevage bovin, ça fait partie aussi de notre identité visuel de nos paysages, parce que effectivement un pays sans bovins, c'est d'une tristesse absolue, c'est plus exactement la même France.
Si on mangeait que ceux qu'on voit dans les champs, c'est très bien, mais c'est pas le cas.
En fait, la baisse de la viande bovine, ça dépend par quoi on la remplace. Si c'est effectivement pour remplacer par des poulets qui viennent de Pologne, c'est pas très intéressant. Et par ailleurs, moi je pense que le vrai problème, pendant ce temps-là, le temple de la malbouffe qui est McDo bat des records de fréquentation.
Mais oui, ça c'est très bon.
Voilà. Baisse de la viande consommée ne se traduit pas malheureusement par un recul de la malbouffe. Allez. Bien au contraire.
La baisse de la consommation de viande en France, faut-il apprendre à s'en passer? Vous nous appelez au 32-16. Charles nous rejoint. Bonjour, Charles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est à Toulouse.
Voilà.
Charles, Charles, l'un des... Perico, je sais que pour toi, c'est l'un des plus beaux métiers au monde.
Il est bouché.
Certains disent, voilà, pilote de ligne, tu sais, astronaute.
C'est pas mal.
Non. Mais Charles, vous faites quoi dans la vie?
Je suis tripier.
Quelle merveille. Un des derniers. Merci, monsieur. Courage.
Des tout derniers tripiers de France.
Ah, tout dernier tripier. C'était la vache folle qui avait tué la profession.
C'est beau. Et il est dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Merci d'être avec nous, Charles. Charles, est-ce que vous constatez une baisse de la consommation de viande?
Alors oui. Moi, ça fait 14 ans que je suis installé. On a une baisse de consommation au quotidien. Vraiment la consommation de tous les jours. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est vraiment les gens viennent le week-end pour se faire plaisir et pour cuisiner pour la semaine.
D'accord.
Après, en triperie, nous avons... En fait, c'est une autre façon de consommer, c'est-à-dire que nous utilisons toutes les parties de la bête. Mmh. Donc, en fait, vous allez retrouver des morceaux comme le foie, les rognons, le cœur, les joues, la langue... Tous ces morceaux-là qui permettent justement de mieux valoriser les animaux.
Et ça, sur ces parties particulières d'animaux, est-ce que là aussi il y a une baisse?
Alors non, même il y a une hausse parce que nous sommes sur des prix quand même assez bas. C'est-à-dire, vous achetez un kilo de cœur de bœuf, ça vaut 6 euros le kilo. Et vous avez de la viande de très bonne qualité.
Est-ce que vous avez le sentiment, parce que j'imagine que vous discutez avec vos clients, vous êtes où, dans Toulouse même,
dans le marché Victor Hugo, en plein centre.
Ah,
Toulouse.
Magnifique, le marché Victor Hugo à Toulouse. Bon, alors j'imagine que vous discutez avec vos clients. Est-ce que certains consomment moins?
Oui.
On consomme mieux. Est-ce que certains ont redécouvert la manière de consommer la viande d'une manière différente, notamment avec ce qu'on parle avec les tripes?
Alors ben justement, comme en fait, c'est une redécouverte un peu de la triperie, parce que en 96, donc la vache folle, moi j'ai pas connu, j'avais 12 ans, mais il y a eu une très grosse baisse de consommation d'abats, voire complètement, ça a sauté une génération, et là maintenant c'est plus les jeunes reviennent, réessayent justement des produits qui sont plus accessibles, qui demandent peut-être un peu plus de préparation.
Et peut-être d'autres habitudes, parce qu'on a perdu le goût de certains. Moi, je sais que je le faisais, parce que je parle de moi, mais parce que c'est pas pour parler de moi, je sais qu'un certain nombre d'entre nous vont se reconnaître. Moi, je sais que quand j'étais gamin, j'avais la chance, c'est une chance, d'avoir des parents qui étaient issus du monde agricole.
Oui.
Donc, quand j'étais gamin, par exemple, moi, j'ai mangé du foie de lapin, etc. J'ai complètement perdu l'habitude après, quand je suis devenu indépendant, étudiant. J'ai arrêté, parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, mon actuelle compagne, je le remercie, m'a fait redécouvrir. Mais c'est vrai, quand c'est bien cuisiné, un bon foie de lapin, ça coûte pas très cher. Et puis on redécouvre des goûts totalement différents qu'on a oubliés, Charles.
Je crois avoir localisé Charles. Est-ce que vous avez un frère qui s'appelle Antoine et un autre Johan?
Mon frère s'appelle Antoine, mais non, Johan n'est pas mon frère.
D'accord. Mais vous avez un frère qui s'appelle Antoine.
Tu l'as reconnu à moitié.
Bah, c'est la triperie Gasconne, alors, probablement.
Oui, c'est vous la triperie Gasconne?
C'est nous la triperie Gasconne.
Oh, bien vu. Bravo, Perico. Bravo, Perico.
L'inspecteur Perico.
Charles, donc vous restez optimiste pour votre métier quand même?
Oui. Je suis optimiste parce que disons que, à l'heure actuelle, donc, il y a beaucoup moins d'abattage en France, hein, de bœuf. On parle que du bœuf, hein. Mais justement, que ce soit les éleveurs ou les abatteurs vont chercher plus à valoriser leurs bêtes. Donc, c'est les abats qui n'étaient absolument pas valorisés autrefois, qui étaient même jetés à la benne, là maintenant vont plus être mis à la vente.
J'ose vous poser la question, Charles. On n'y est pas encore, mais est-ce que est-ce qu'on pourrait même parler de d'une renaissance de la gastronomie française?
C'est un grand mot, mais
ouais, je sais que c'est
un
mot.
Il y a un retour.
Une redécouverte, allez, on va dire.
C'est une redécouverte, c'est les habitudes qu'avaient nos grands-parents, hein, alors qu'ils mangeaient de la viande un peu plus, mais ils mangeaient de la viande qui était plus abordable.
Voilà. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous. Tiens, une dernière question, Charles. Le dernier morceau de viande que vous êtes cuisiné pour vous, c'était quoi?
Je me suis fait de la joue de veau.
La joue de veau.
Vous avez cuisiné comment?
En blanquette.
Bon. Vous avez blanquette en tant que tripier, vous avez de l'onglet et de la hampe, hein, Charles?
De l'onglet, de la hampe. L'onglet et la hampe
sont les morceaux de bœuf du tripier.
Tout à fait.
Bah, merci beaucoup, Charles, de nous avoir mis de l'eau à la bouche. Charles, qui nous appelait depuis Toulouse. Tu m'as dit, c'est la charcuterie Gascogne, c'est ça?
La triperie Gascogne.
Voilà. Merci, Charles.
Du gîment d'origine.
Merci. Vous continuez à nous appeler. Baisse de la consommation de viande en France. Faut-il apprendre à s'en passer? Vous nous appelez au 3216. Le docteur Arnaud Cocolle nous rejoint. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes médecin nutritionniste, auteur de Végétarien aux éditions Albin Michel. Vous, docteur nutritionniste, vous, quand vous discutez avec vos patients, les personnes qui viennent vous voir, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a moins, mais mieux, en ce qui concerne la viande?
Ah, les gens commencent à s'interroger. Donc, je vois même une jeune fille hier que j'ai eue en visio et qui, à l'âge de 12 ans, voulait arrêter complètement la viande pour des raisons éthiques. Donc, elle se posait des interrogations. Donc, les parents, évidemment, s'interrogeaient pour savoir si elle risquait des problèmes de santé ou pas. Je les ai rassurés là-dessus parce qu'il n'y avait aucun problème de santé dès lors qu'elle ne fait pas de restrictions sur d'autres types alimentaires qui pourraient laisser penser qu'elle développe une forme d'anorexie ou d'un trouble qu'on appelle l'ARFID également, qui est un trouble où les gens ont des problèmes avec la texture, la consistance des aliments. Mais là, non, je vois des gens qui s'interrogent alors actuellement pour des raisons économiques, bien évidemment. Ouais. Ça, c'est l'un des points qui ressort de l'étude que vous avez vue. Et sinon, une question d'éthique qui monte en puissance, forcément.
Est-ce que, de plus en plus, vous rencontrez des patients qui vous disent « Moi, la viande, c'est terminé. Je n'en veux plus. »
Ah oui, j'en ai quelques-uns. Donc, j'ai des patients qui ont...
Mais il y a une augmentation ou pas?
Alors, augmentation à mon échelle, je vois ça plus fréquemment. Alors, est-ce que ça ressort dans les chiffres?
Mais c'est votre expérience à vous, c'est ça qui est intéressant quand même.
Mon personnel, ça ressort nettement. J'ai des patients qui ont fait une bascule complète, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté complètement toute source de protéines animales, mais à l'état adulte, et ils ont basculé vers le végétalisme pour certains. Donc, je vois ça. Alors, c'est plus une problématique, je dirais, de ville, vous voyez, que de campagne.
Ouais. Il y a quand même une fracture aussi culturelle, j'allais dire.
Forcément, ouais. Parce que il y a plusieurs années, il y avait un ministre qui parlait de la France d'en haut et de la France du bas, un premier ministre. Et donc on reste dans cette catégorie-là, malheureusement, c'est que la viande a un coût économique énorme. Et que les gens, actuellement, avec le pouvoir d'achat, forcément, rognent là-dessus, en faisant des erreurs parfois, parce qu'ils n'arrivent pas à remplacer la viande de façon correcte.
C'est ce que j'allais vous dire, docteur. Est-ce qu'un adulte, et peut-être même un enfant, mais est-ce que du jour au lendemain, je peux me dire, moi, j'arrête la viande, terminé, et ne rien changer?
Alors non, il faut changer forcément parce qu'il faut des protéines végétales, il faut savoir quel type de protéines végétales. Après, il y a d'autres sources. Est-ce que vous allez basculer dans ce cas-là dans le végétalisme complet ou est-ce que vous allez devenir ovo-lacto-pesco-végétarien? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez garder les œufs, les produits laitiers et le poisson. Donc il y a des gens, il y a différents types de profils. Donc j'ai des patients qui arrêtent complètement la viande mais qui gardent le poisson, ce que je trouve très bien. Donc avec les recommandations, c'est-à-dire deux fois par semaine, et en fait, il faudrait faire des recommandations, ça serait de faire un repas végétarien par jour, voyez, et garder un repas avec des protéines animales une fois par jour.
Je ne sais pas dernière question, docteur, parce qu'on est pris par le temps, je suis désolé, mais docteur, une dernière question. Est-ce qu'encore aujourd'hui, dans notre pays, on mange trop de viande?
Oui, alors les chiffres, ça c'était une étude qui date de 2017 qui montrait qu'on mangeait en moyenne chez les Français 530 grammes de viande par jour, ce qui est au-dessus des recommandations, par semaine, excusez-moi. Ce qui est au-dessus des recommandations.
Ça c'est Perico par jour.
Oui, oui. On ne devrait pas dépasser
3, peut-être,
en fait, 500 grammes par
d'accord.
semaine. Et donc, mais dedans, il y a une disparité. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas mangeurs de viande et vous avez au contraire des gens qui ne peuvent pas envisager un repas sans une entrecôte ou des côtelettes ou des steaks hachés mention XXL.
Question donc, principale
portions,
que.
C'est des portions qui posent problème.
Vous question principale que Rémi n'a pas voulu vous poser, est-ce que malgré tout, on peut continuer à consommer de la bonne viande sainement? Voilà.
Oui, complètement, complètement. Et Perico, je pense que vous êtes un bon orateur là-dessus, vous saurez nous donner les bons conseils à viser. Mais tout à fait, je pense que c'est, on peut complètement garder la viande, mais il faut savoir la choisir, il faut évidemment savoir d'où elle vient, donc avoir une traçabilité, donc forcément une viande qui a été élevée dans des conditions non éthiques est à bannir. Mais bon, voilà, il faut absolument qu'on connaître un petit peu d'où elle vient, garder le cheptel français.
Merci beaucoup, docteur Arnaud Cocolle, d'avoir été avec nous, médecin nutritionniste et auteur de Végétarien, paru aux éditions Albin Michel. Sébastien nous rejoint en 32-16. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci
bonjour
d'être avec nous. On est dans le très, très joli département du Lot.
Ah oui, direct du potager.
Bon, en direct du potager. C'est pas beau ça? On s'invite dans votre potager. Sébastien, vous, bah, le potager, il est important pour vous. Expliquez-nous.
Exactement. Et ben moi, il y a environ 8 ans, j'étais donc à Toulouse, je bossais dans l'aéronautique et un peu en recherche de sens, je me suis intéressé au climat au bout d'un moment et je me suis rendu compte que la production de viande et la consommation de viande dans le monde faisait que on dégageait beaucoup de CO2 à cause de ça. Et du coup, je suis devenu naturellement végétarien.
Donc vous mangez plus de viande depuis 8 ans?
Alors, j'en mange de temps en temps. Je vous cache pas que quand je fais venir les copains, qu'il y a le barbecue, que je cuis la viande, bon, des fois, il y a une saucisse qui passe. Mais
bon, après, la pauvre.
Après, vraiment, la plupart du temps, ouais, c'est très rare. J'en mange quoi, une, deux fois par an, et voilà, quoi.
Et vous vous en portez pas plus mal?
Ben, pas du tout, hein. Franchement, ma femme est en passe de devenir diététicienne, elle me conseille beaucoup là-dessus. Bon, après, on produit nos propres œufs, donc bon, on a cette chance aussi d'être à la campagne et tout, mais voilà, du coup, on n'en consomme pas. Ouais.
Et les légumes du potager, bien entendu, qui sont une merveille.
Je vais utiliser une expression qui est usitée aujourd'hui, mais c'est pas grave. Là, pour Sébastien, le bonheur, il est dans le pré pour vous, oui. Hein, Sébastien.
Exactement. Là, il est dans le Lot, même.
Magnifique.
Après, voilà, le fait d'être devenu parent, voilà, je pense à la planète qu'on va laisser faire nos enfants. Et bon. Voilà.
C'est un beau message, en tout cas, enfin, un bel exemple que vous nous donnez, Sébastien, dans le Lot. On est où dans le Lot?
Vers Castelnau-Ventratier.
Ah oui,
dans le sud du département.
En plein Quercy.
Bon, très bien. Magnifique. Quel temps il fait là?
Là, pour travailler la terre, un peu chaud quand même. Hein.
Un peu chaud, ouais, mais il y a les orages qui arrivent, hein, attention. Hein.
Il y aura de l'eau. Soyez,
abriter les légumes les plus fragiles. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Allez, dans un instant, tout de suite, on vous a posé la question. Martin, oui. La baisse de la consommation de viande en France, est-ce qu'il faut apprendre à s'en passer?
Vous n'avez pas forcément envie, non, à 72%.
Ah, il y a encore des braves gens dans ce pays.
Dans un instant, RMC Conso, les pros de la réno. Tiens, ma maison, mon appartement, est-ce qu'il faut que je le rénove d'un point de vue énergétique? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bah, on va vous répondre dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h, RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT, Charlotte méritant nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Aujourd'hui, avec les pros de la réno, Charlotte, tu nous expliques comment savoir si on doit se lancer dans des travaux de rénovation énergétique.
Oui, tu t'es peut-être déjà posé cette question en te réveillant en sursaut avec...
Ah ben, tous les matins, tous les matins.
Est-ce que je dois faire
tous
des travaux
matins.
De rénovation?
Genre plus la nuit.
En tout cas, c'est quand même un sujet qui concerne beaucoup de monde, hein, puisqu'il y a 6 600 000 passoires thermiques en France. Alors, comment savoir si vous êtes concerné? Le premier indicateur, c'est le DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, qui donne une lettre à votre logement de A
à G, A pour les très bons élèves et G pour les moins bons. Une passoire thermique, c'est si vous êtes entre la lettre E et G, donc E, F ou G. Et il faut savoir que le DPE est obligatoire pour une vente ou une location, donc il faut le connaître autant qu'il faut connaître votre groupe sanguin, j'ai envie de dire. Est-ce que vous connaissez votre DPE d'ailleurs ?
Moi, je le connais, oui. Parce que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc,
ah oui, ouais. En général, quand on vient d'acheter, vu qu'on l'a forcément avec sa... son achat ou sa loc, mais
je savais pas que oui, alors,
Martin, toi tu sais pas.
Non, alors que j'ai acheté pareil très récemment, mais dans le neuf, donc peut-être que.
Eh ben là, alors normalement c'est un bon.
J'imagine que c'est à peu près
les trous dans les murs, c'est pas
ça marche pas.
En tout cas, la moitié des Français ne le connaissent pas. Et si vous ne le connaissez pas, il y a quand même deux trois petites choses qui peuvent vous alerter et vous pousser à refaire faire ce diagnostic si nécessaire.
Ah bah premier indicatif, ça peut être peut-être la facture de chauffage déjà.
Oui, exactement. Au-delà de 800 euros par an, si vous habitez une maison d'à peu près 120 mètres carrés, il faut commencer à vous poser des questions. C'est que c'est beaucoup et qu'il va peut-être falloir faire des travaux de rénovation énergétique. Ça peut aussi être un ressenti, si jamais vous avez une sensation de froid persistante l'hiver chez vous, des courants d'air, un mur un petit peu humide, de la moisissure autour des fenêtres, c'est le signe d'un pont thermique, ça peut être un problème d'isolation.
Et on sens comment ? On commence par où ?
Bah, bonne question Rémi. Et pour te répondre, on va donner la parole à Gwendal Lecomte, qui est artisan et formateur spécialisé en rénovation énergétique, membre des Compagnons du Tour de France. Salut Gwendal.
Bonjour.
Gwendal, est-ce qu'il y a un ordre à respecter quand on se lance dans ces travaux ou quelque chose à faire en priorité ?
Alors comme vous l'avez dit, le DPE déjà, on va dire un bon indicateur. Il y a un petit pictogramme sur le DPE qui généralement indique où sont les plus grosses déperditions. Maintenant, souvent, c'est quand même en moyenne hein, sur la moyenne des maisons du parc en France, c'est en priorité la toiture. Ensuite viennent les murs et la ventilation dans les déperditions, sachant que l'idéal c'est quand même de faire plusieurs travaux en même temps, voire tout si on peut quoi.
Oui. Je sais qu'il y a l'audit énergétique qui a différencié du DPE, mais c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors l'audit énergétique, il est beaucoup plus poussé dans ses recherches, c'est-à-dire que non seulement il va vous donner la déperdition, mais en plus il va vous donner il va vous faire des propositions de travaux pour arriver au niveau BBC ou à minima à 30%. Et sur les deux propositions de travaux, il va
d'économie venir aussi... de consommation d'énergie, vous voulez dire 30% d'économie de consommation.
Oui, de consommation, ouais. Et donc il va vous faire un chiffrage aussi de ce que ça vous coûterait et il va vous parler aussi des aides auxquelles vous auriez droit pour atteindre ces travaux.
D'accord. Est-ce qu'il y a une période à privilégier pour faire les travaux ou ça peut être un peu n'importe quand dans l'année ?
Non, ça peut être un peu n'importe quand dans l'année, mais le souci c'est que sur certains travaux d'isolation, il faut pouvoir prévoir un peu de temps, voire déménager peut-être 2 semaines le temps de faire les travaux, quoi.
Oui, donc effectivement, il faut prévoir un petit peu à l'avance tout ça. Ok, merci Gwendal. Et sachez que selon l'ADEME, l'Agence pour la Transition Écologique, une isolation performante peut réduire la consommation d'énergie d'un logement de 60%.
Ouais, c'est pas rien vu les prix de l'électricité.
Voilà, aussi 60% potentiellement en moins sur vos factures d'énergie. Donc c'est à prendre en compte si jamais vous voulez vous lancer. Maintenant, vous savez comment faire.
Merci beaucoup Charlotte. Méritant les pros de la réno. Allez, dans un instant, les immanquables de Martin. Martin, on parle de quoi notamment ?
On va parler de Jean-Luc Mélenchon, tiens, qui est revenu qui est revenu effectivement hier sur les pancartes aperçues dans certaines manifestations anti-rassemblement national.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h RMC et RMC Story, le canal 23 d'ATNT. Et comme tous les jours à cette heure-là, Martin est prêt, ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Martin, on commence avec la réponse du jour.
Celle de Jean-Luc Mélenchon, appelé à s'exprimer sur certaines pancartes aperçues dans des manifestations anti-rassemblement national, des pancartes affichant parfois des slogans anti-police, des slogans absurdes pour le patron de la France Insoumise, qui a ensuite invoqué le droit à l'humour. On a le droit de rigoler, non, a-t-il lancé sur le plateau d'M6 hier. Pas sur la mort des gens, pardon. Bien sûr que ce n'est pas drôle. Voilà ce qu'a dit
Jean-Luc Mélenchon. Il y a notamment une pancarte où il était inscrit un policier mort égale un électeur RN en moins.
Exactement.
Bon. Est-ce que... Je ne sais pas qui veut réagir. Perico.
Alors, tout dépend de où on le regarde. Mais la pancarte serait... je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Un syndicaliste mort est un militant du
FN en moins.
Mais c'est ignoble. C'est ignoble, c'est compris. Ce n'est pas ça les valeurs de la gauche. Le mot Front Populaire, avec tout ce qu'il représente et toute la vénération que je lui porte, ne peut pas contenir des propos de ce genre. Donc, il faut pas dire en rigoler. Il faut au moins le RN, quand il y en a qui dit une monstruosité comme le député du Loir-et-Cher, ben il sanctionne, qu'il le pense ou qu'il le pense pas sincèrement. Là, il peut pas se contenter de dire c'est l'humour.
Non, alors,
il doit dire c'est inadmissible. Mais prenez même la mort d'un être humain, alors un flic. Mais dire quelqu'un qui meurt, quel qu'il soit, c'est un électeur du RN en moins. Les électeurs du RN, ça nous fait mal. C'est le peuple français qui décide de son avenir souverainement. Ça veut dire quoi? Donc on est contre la démocratie, contre le suffrage universel, contre la liberté d'expression. Et on en est à tel point devenu fou sur ce débat qu'on dit que la mort d'un flic, c'est un électeur, c'est-à-dire un citoyen qui s'exprime en moins. Mais le fascisme, c'est pas ça. Ça, c'est au-delà du fascisme.
Lumière.
Ok, donc moi, alors sur le sujet de Jean-Luc Mélenchon, comme souvent, il aurait dû se taire. Enfin, je
c'est
crois
ce
que
dire,
vous m'avez souvent entendu dire.
Est-ce qu'il est obligé
sur ce plateau? Non, pas du tout. Mais vous savez, on est les premiers à gauche. Alors moi, j'ai du respect pour Jean-Luc Mélenchon pour ce qu'il a fait, pour le fait que par son action, il y a des millions de Français qui se sont rendus aux urnes qui ne le faisaient pas avant. Enfin, j'ai pas de sujet. Il a fait monter des gens en politique qui sont intéressants. Voilà. Après, je suis la première à dire que il s'exprime à tort et à travers, et qu'il c'est à nous qu'il fait du mal. C'est à son propre camp qu'il fait du mal.
Est-ce que plus que jamais, donc, aujourd'hui, justement, voilà, on n'aurait pas besoin d'apaisement
si, de la part de... Complètement. Moi, je suis en désaccord profond avec la stratégie de la conflictualité permanente de certaines personnes à la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'elle ne nous sert pas. Je pense qu'au-delà de gagner des voix, il faut qu'on œuvre à l'apaisement et à la réconciliation dans ce pays. Et en tenant ce genre de propos, il nous en éloigne. Voilà.
Et est-ce que tu partages l'idée de certains, la crainte, j'allais dire de certains, parce que je parle là de militants, ou plutôt pas de militants, mais de gens qui votent à gauche, la crainte que par ce type de propos, pas que celui-là, mais d'autres, par ce type de comportement,
ben,
on mène
résiduel.
Un certain nombre de Français qui voteraient à droite, mais là, je parle de la droite traditionnelle.
Un centriste, bien sûr.
Je parle, un électeur LR, tu sais très bien qu'aujourd'hui, certains électeurs, LR ou même centristes, centre-droit, on va dire, vont voter.
Macronistes également.
Macronistes.
Oui, bien sûr.
Macronistes centre-droit.
Mais je suis d'accord.
Vont voter RN dimanche.
Pour ne pas.
Parce qu'ils sont effrayés.
Je sais.
Parce qu'il se passe.
Mais je sais, mais vous savez, moi, je dors 6 heures par nuit en ce moment, sinon je travaille sur cette élection. Donc je suis la première à savoir que quand il tient ce genre de propos, il travaille contre notre camp. Donc c'est un problème au-delà du fond. Qui est bien évidemment abject. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois qu'il faut qu'on convainque les gens qui votent pour le Front National avec nos arguments, et que bien évidemment, c'est complètement lunaire, c'est extrêmement choquant de souhaiter la mort d'un électeur RN, d'un policier. Enfin,
c'est pas souhaité. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'humour.
Rapidement sur au moins le RN, il désavoue ses candidats. C'est pas vrai. Enfin, va faire la soupe, salope, Julien. Rancoul, candidat RN dans l'Aude. Hitler n'a peut-être pas assez tué de gitans. Gilles Bourdelais, candidat soutenu par le RN dans le Maine-et-Loire. L'IVG est un génocide de masse. Christophe Benz, candidat RN en Haute-Marne. Tous ces gens-là, ils sont encore investis par le Rassemblement National. Il y a 45 candidats du Rassemblement National qui ont eu des plaintes pour antisémitisme et ils sont encore candidats. Donc en fait, pardon, mais il y a un moment, là on parle d'une pancarte d'un mec qu'on ne connaît pas, qui est absolument pas en posture d'avoir...
Non, on parle des propos de Jean-Luc Mélenchon qui est postulant premier ministre.
Voilà, qui ne va pas être cadre, et de la réponse de Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs a quand même dit les mots abjects, quand même dit absurde. Ouais. Donc en fait, il n'a pas juste dit c'est génial, bien évidemment, on souhaite que les policiers meurent. Il faut se replacer dans le truc.
Il a dit que c'était l'humour.
Il a invoqué le droit à l'humour.
Et vous m'avez entendu dire que c'était un problème.
Il n'y a aucun doute sur le
problème.
Je trouve ça gravissime parce qu'on n'est pas face aux propos d'un obscur député, mais d'un type qui postule à être Premier ministre demain. Et que par ailleurs.
Il n'était pas candidat. Il ne rejetait rien.
Alors, au cours de la même émission, il a dit il ne faut pas m'exclure.
Non, mais c'est ce qu'il dit, je te dis. Il a dit qu'il n'était pas candidat, mais qu'il ne rejetait rien.
Et Par ailleurs, moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on se focalise sur le cas de Mélenchon, comme si Mélenchon était totalement extérieur à cette alliance, à ce nouveau Front populaire. Moi, j'entendais Rudy Manin ce matin réagir à ça, syndicaliste de l'Alliance Police, qui dit, en fait, nous, on sait très bien que ça traduit quand même un climat anti-flic au sein de cette coalition Front populaire, et on sait très bien que si demain, ils arrivent au pouvoir, on ira...
au sein d'un certain nombre de membres de cette alliance.
Lui, là, il a dit il y a un climat. Je reprends ses propos. Et il a dit, on sait très bien que si demain ils arrivent au pouvoir, on continuera évidemment à faire notre travail pour protéger les Français, mais on le fera en marchant sur des œufs, parce qu'on sait très bien que non seulement on ne sera jamais soutenu par notre hiérarchie, mais qu'en plus on les aura contre nous. Par ailleurs, je rappelle quand même que cette même coalition a investi dans la circonscription où Arnaud Beltrame a été tué par un terroriste islamiste, a investi Philippe Poutou, qui a sur ses affiches des armements de la police tue. Donc il y a vraiment un climat anti-flic qui est extrêmement préoccupant.
Le compte du jour, Martin.
Un compte TikTok qui est dans le viseur de la justice parce qu'il appartient à un détenu. Et oui, un détenu qui se filme depuis sa cellule, pose des questions à d'autres détenus, notamment à un homme condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une prostituée. Plusieurs dizaines de vidéos qui ont été vues par les 63 000 abonnés à ce compte. Une enquête est ouverte dans la Meuse pour introduction illicite d'objets en détention.
Perico, est-ce vraiment surprenant?
Ça fait partie, j'allais dire, des dérives de notre époque. Bon, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça.
Bah, visiblement, ouais. Rien.
Ah, voilà.
Bah, en tout cas, on n'y arrive pas.
Ah non. Donc ça, c'est un vrai problème. Là, c'est un vrai problème, j'allais dire, de souveraineté, de liberté et de capacité à pouvoir empêcher dans ce pays que des aberrations de ce genre puissent se déployer. Là, il y a un problème de légalité qui se pose. Et je pense qu'il faudra rapprocher la question, toute tendance politique confondue. Là, c'est...
Noumir.
Oui, je suis assez aligné.
Laurent.
Oui, moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est qu'on a sévi contre lui parce que TikTok a un côté très symbolique. Mais quelques mois avant, on nous avait dit que qu'on allait renoncer dans les prisons à intervenir pour supprimer les téléphones portables qui servent aux trafiquants de drogue. Et là, c'est gravissime parce que on en a eu un exemple sous une forme évidemment hyper tragique avec le massacre des convoyeurs
des personnels pénitentiaires qui convoyaient Mohamed Amra et qui après on a découvert qui est toujours en fuite actuellement et on a découvert par la suite que c'est notamment au cours des 6 derniers mois avant ce drame, il avait eu en sa possession 9 téléphones.
Voilà, et ça, c'est effectivement dramatique.
Allez, on va passer à la dénonciation du jour.
Comment réagiriez-vous si vous découvriez de la drogue dans votre voiture après l'avoir prêtée à votre enfant?
La voiture, pas la drogue.
La voiture, effectivement. Cette mésaventure, c'est ce qui est arrivé à cette mère de famille à Marseille. Elle a retrouvé 216 grammes de cannabis dans la voiture quand elle l'a récupérée. Elle a donc décidé d'emmener sa fille de 25 ans au commissariat pour signaler l'incident et remettre la drogue aux autorités. La jeune femme a été convoquée dès le lendemain au tribunal pour une comparution immédiate.
Ça rigole pas, la maman. Ça vous fait réagir comment ça? Ça me fait penser évidemment à la scène dont on a tellement parlé lors des émeutes d'il y a un an où on avait capté cette scène qui avait été captée par des images vidéo d'un papa qui allait choper son fils qui était en train de traîner dans la rue à un endroit où il ne fallait pas, à une heure où il ne fallait pas vu le contexte, et qu'il avait pris manu militari pour le ramener chez lui.
Oui, et puis une maman qui avait foutu une claque, je crois, c'est la même scène. Bon, là, c'est un niveau un petit peu différent, c'est pas juste une incivilité, c'est un délit.
Je ne suis pas consommateur, mais 216 grammes, c'est quand même pas
216
mal.
216 grammes,
c'est beaucoup.
On rentre, voilà. Donc, non, je trouve que c'est une maman, c'est ça
ouais,
ou non
ouais.
Elle a héroïquement et intelligemment réagi. Voilà, il y avait d'autres possibilités de cacher. Voilà, elle a pris la responsabilité et en même temps pédagogiquement pour la fille c'est important. J'espère que la police
pédagogiquement elle a 25 ans.
Oui, mais j'espère qu'ils en tiendront compte. Elle a accepté en même temps d'aller accompagner sa mère. Voilà, c'est un cas de figure assez rare quand même. En général, on vous met des petites pochettes de bicarbonate pour vous compromettre. Vous voyez, les polices secrètes font ça souvent dans les pays. Puis il a de la drogue. Et dans les pays asiatiques, c'est arrivé souvent.
Aux États-Unis, ça arrive beaucoup.
Aux États-Unis, voilà. Donc là, le mieux, c'est la meilleure réaction, c'est de dire voilà, il y a ça, parce que caché. Et si on le sait qu'on l'a caché, vous pouvez tomber. Vous êtes tout de suite complice de la.
Cette jeune fille, elle a 25 ans. Bon, elle est majeure,
elle
largement.
Est
malgré tout, parfois, on parle de l'irresponsabilité d'un certain nombre de parents, de leur responsabilité Ah là, la maman,
oui.
Pour le coup.
Moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ça. J'imagine que... Enfin, je ne connais pas les antécédents de cette jeune fille, hein, mais en tout cas, ce que je trouve... malgré le procès en irresponsabilité, en effet, qu'on fait à de nombreux parents,
qui existe parfois,
mais qui, je pense, enfin, je ne suis pas maman, mais je pense que ça doit pas être facile d'être parent et que devant ce genre de moment, on doit vraiment profondément se poser la question de ce qui est le mieux pour soi, enfin pour l'enfant et pour la société, parce que mine de rien, cette jeune fille, elle ne vit pas dans une bulle, elle vit en collectif. Et en tout cas, ce que je trouve étonnant, là, à une période où je crois une majorité de parents élèvent leur enfant pour leur enfant, sans se poser la question de comment est-ce qu'il va vivre en société et interagir avec d'autres êtres humains, la capacité de cette maman à mettre un cadre. Ça m'interroge que sa fille ait 25 ans. Donc je me pose la question de ce qui s'est passé avant, mais en même temps, je veux pas juger, je connais pas le truc.
Laurent.
En tout cas, ça m'interroge sur aussi les relations et la manière dont la fille va vivre tout ça.
Oui, parce que là, effectivement, on n'est pas tellement dans le cadre de l'irresponsabilité des parents, mais plutôt de l'irresponsabilité des enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous faites des bêtises, vous essayez
de préserver
à partir d'un certain âge, vous essayez de faire en sorte que ça retombe pas sur votre entourage. Et là, effectivement, elle n'en avait pas grand-chose à faire apparemment, mais c'est assez étonnant. Hein.
Le prix du jour.
Le prix d'un billet de TGV qui a augmenté plus fortement que ce qu'avait promis la SNCF, d'après l'autorité de régulation des transports. La SNCF avait annoncé une augmentation moyenne de 5% pour 2023. Elle est finalement de 7% d'après l'ART. Un billet SNCF coûtait en moyenne 43 euros l'année dernière. L'autorité de régulation précise que les prix sont en hausse pour l'ensemble des classes tarifaires et des distances parcourues, mais ça a plus augmenté sur les offres low cost. 10% par exemple sur les Ouigo contre 5% sur les autres services. Des chiffres que conteste la SNCF.
On connaît ton engagement, Loumir, pour l'environnement, pour l'écologie.
Et le service public.
Ce genre d'infos, quand on les découvre, on se dit vraiment qu'on marche sur la tête.
On
rêverait que, parce que vu le prix que ça coûte de laisser notre voiture au garage quand on le peut, de pouvoir prendre le train, notamment pour partir en vacances. Là, on sait, j'ai plus les chiffres en tête, c'est plus de 7 Français sur 10 vont prendre leur voiture individuelle pour partir en vacances.
Oui, c'était le sujet de la semaine dernière.
On en a parlé la semaine dernière, tout simplement parce que la plupart te disent, et vu le contexte actuel, c'est trop cher le train. Tout le monde ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir prendre le train, mais c'est vrai. Mais non, quand tu peux, si, moi je sais que je le prends tous les jours, c'est quand même super pratique. Si tu as une gare pas trop loin, t'as des transports en commun qui t'amènent jusqu'à la gare, que tu montes dans le train, t'es quand même, je suis désolé, tu vois, c'est pas rigolo de rouler pendant 10 heures au volant de sa voiture. Et que tu arrives à destination beaucoup plus rapidement quand même qu'en voiture.
Que t'arrives en centre-ville.
Ou alors que t'arrives, et puis que là, il y a des transports en commun qui prennent le relais. C'est un monde rêvé. Mais là, quand on voit ce genre d'infos, mais c'est décourageant.
Ah, mais je suis bien d'accord. Vous m'avez entendu dire des dizaines de fois sur ce plateau qu'il faut que la mobilité redevienne un service public d'intérêt général et non pas un objectif marchand. C'est aussi parce qu'on oblige la SNCF à faire des profits après une réforme de son fonctionnement que la SNCF augmente ses prix. Et donc il y a un vrai enjeu à traiter la mobilité, surtout la mobilité durable qui ne pollue pas, comme un service public et donc comme l'école et comme l'hôpital qui n'a pas vocation à rapporter de l'argent. Et je crois que c'est là le problème, c'est qu'on a deux logiques qui s'affrontent, une logique de rentabilité et une logique de service public. Et donc bien évidemment qu'on ne va pas réussir à relever le défi immense de la transition écologique qui nous attend sans traiter ce problème de la mobilité et en faire et faire du train un mode d'accès accessible économiquement.
Péricot, est-ce qu'il faudrait refaire de la SNCF un vrai service public ?
C'est l'objectif de tous les présidents de la SNCF et de tous les gouvernements français, dans la mesure où...
Avec les prix qui pratiquent, c'est pas ça.
C'est que le paramètre néolibéral commercial s'est introduit. Je me souviens, à un moment donné, les contrôleurs étaient marqués, les agents commerciaux. Et la relation, on n'était plus des usagers, on était des clients. Ils sont revenus sur une terminologie, on est usagers, voyageurs, il y a des contrôleurs. C'était devenu une entreprise qui vendait des produits. Et donc, elle vous transportait quand même. Ça, c'est pas possible. Alors, il y a une équation économique qu'il faut respecter.
Et écologique?
Écologique, ça...
Non, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que en vue de ce qui se passe déjà et ce qu'il va se passer demain, d'un point de vue de notre environnement, est-ce qu'il faudrait pas, c'est un choix politique, c'est un courage politique, il faut du, c'est un budget énorme, on est d'accord.
Bien sûr, ça coûte très cher de faire rouler.
Des milliards et des milliards, parce qu'il faut remettre le réseau en état et tout. Mais est-ce que justement, il faut pas avoir, faire ce choix politique de faire redevenir du train un vrai service public?
Et écologique.
Et écologique en même temps.
Écologique, il faut multiplier par 4 l'industrie nucléaire, l'énergie nucléaire, pour avoir de l'électricité pas chère.
Allez, on va terminer avec la sortie du jour.
Ouais, c'est l'événement cinéma de la semaine, la sortie du conte de Monte Cristo, donc au cinéma avec Pierre Niney dans le rôle d'Edmond Dantès, pour réadapter donc ce classique de la littérature française qui est aussi devenu au fil des années un classique du cinéma. L'histoire écrite par Alexandre Dumas a été adoptée une vingtaine de fois au cinéma, sans compter les séries, les feuilletons qui ont été faits autour de cette histoire. Les premiers films remonte au tout début du XXe siècle. Le dernier long métrage inspiré du conte de Monte Cristo remonte à 2002.
Tu l'as vu ou pas encore?
Ouais, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était assez réussi.
Il paraît que j'ai lu des critiques. Il paraît que c'est très bien.
C'est très fidèle à l'histoire.
Malgré tout, Laurent, est-ce qu'on manque? Franchement, on peut pas trouver d'autres idées? On est obligé de toujours refaire des classiques comme ça. C'est une question, j'en sais rien.
Non, moi ça me gêne pas. Il faut pas faire que ça. Mais je trouve que on trouve dans ces adaptations là un souffle épique, un côté roman feuilleton qu'on aurait du mal à trouver, qu'on est content de retrouver à l'écran. De manière régulière. Et puis par ailleurs, je suis désolé, mais moi qui suis un grand partisan de la lecture, je pense que c'est aussi un moyen très
pédagogique
de donner envie de lire à des jeunes, parce que forcément,
fait avec Lupin, par exemple.
Voilà, et
c'est un film français, donc s'il cartonne, tant mieux. Il sort aujourd'hui, il faut le dire, c'est particulier, un vendredi.
J'ai pas bien compris pourquoi.
Bah si, parce qu'il y a la fête du cinéma.
Du cinéma.
Ce lundi, donc pour essayer de booster les entrées. Rapidement, ça vaut le coup? Vraiment?
Ouais, ça vaut le coup. C'est un peu trop lisse. Ça manque un peu de personnalité, un peu d'âme. Mais les acteurs sont formidables. Ça manque aussi un peu de dialogue. Ça, c'est le problème. C'est qu'on sait plus faire des films avec des bons dialogues. Hein. Mais on s'ennuie pas une seconde. C'est très fidèle au roman. Ça donne envie de le lire. Donc, je pense que ça vaut le coup.
Bah, j'ai jamais vu que des massacres. J'espère, je vais aller voir avec grand intérêt. Je n'ai jamais vu que des massacres de la littérature française. Voilà.
Bah, écoute,
à part Les Misérables de Robert Hossein avec Lino Venturin qui était à peu près. Le reste,
mais c'était une avant Péricourt.
Le reste, c'est
Parce qu'il faut encourager, c'est un film français, puis il faut encourager les gens, ceux qui le peuvent, justement, à aller dans nos salles de cinéma. C'est important. C'est la fête du cinéma, c'est lundi, ça dure 4 jours, je crois.
Ouais.
C'est 5€ la place, donc pourquoi pas le conte de Monte Cristo. 5€ la place, ça vaut le coup. Allez, tout de suite, un autre noble, mais là c'est la noblesse du sport. La noblesse du sport, c'est pas le comte de Monte Cristo.
C'est Jean Valjean.
C'est le comte Vincent Moscato.
C'est Jean Valjean qui est un
monseigneur.
Par contre, Péricot, tu as raison. Les Misérables de Lelouch, j'ai adoré, moi, avec Annie Girardot, tout ça, avec Jean-Paul Belmondo, j'ai beaucoup aimé. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'était un angle différent.
Voilà. Très bien, Vincent.
Voilà.
Il se passe quelque chose ce soir en rugby, non?
Oh, il se passe quelque chose, c'est la finale du top 14. Vous savez que c'est une messe, c'est un rendez-vous à ne pas louper. L'obtention du Brennus. Est-ce que c'est promis? Le Brennus, encore une fois, à Toulouse. Est-ce que Bordeaux va pouvoir lutter? On se pose la question. Oula. Et puis, ah oui, attention, vous savez, c'est le dernier qui a gagné un titre à Bordeaux, c'est Bibi, c'est papa. C'est le dernier, il y a quelques années déjà. Après, on parlera de Deschamps, est-ce qu'il gère bien le cas Griezmann? Et puis, faut-il au Tour de France, parce que ça aussi, ça c'est les valeurs françaises, c'est notre culture, le Tour de France. Est-ce qu'il faut un Français pour réussir un bon tour? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un mec qui nous gagne des étapes? On ne dit pas gagner le Tour de France, mais qui nous fasse péter un peu le maillot jaune pendant quelques jours. Est-ce que ça manque un peu. Ah, ça manque un peu.
Une victoire d'étape le 14 juillet.
Pas que le 14 juillet, quand même. Voilà, c'est ça.
Ouais. Merci, Vincent, belle émission à toi, le
et
super Moscato Show.
On parlera du pont, les 12 travaux d'Hercule, enfin les 12 travaux de Dupont entre le 7, le machin, le super Dupont. Quoi, on est là, voilà,
merci Vincent,
ça.
Merci, belle émission à toi. Nous, on se retrouve lundi. Je pense que lundi, à partir de midi, il y aura pas mal d'actualités politiques, je pense. Ouais. Et Estelle Denis sera là, évidemment, pour commenter les résultats du premier tour des élections législatives. On se retrouve lundi à partir de midi sur RMC et RMC Story. Estelle Midi et bon week-end.